Mondial Sport sur RFI. Cédric De Oliveira.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver encore une fois pour Mondial Sport jusqu'à 22h temps universel avec un programme copieux pour ce samedi 19 janvier, notamment beaucoup de foot africain, on va y revenir très vite. Mais d'abord on va parler de foot féminin puisqu'on entame la dernière ligne droite vers la Coupe du Monde qui aura lieu, je vous le rappelle, en France. Ce sera du 7 juin au 7 juillet et les Bleus lancent justement leur année face aux États-Unis, match amical qui se déroule en ce moment au Havre. On retrouve notre envoyé spécial Eric Chorin. Bonsoir Eric, et ça se passe très bien pour les Françaises, on peut dire ça.
Ouais, on peut dire ça Cédric, bonsoir ici au Havre, 22 000 spectateurs ravis parce que les Bleus à la 88e minute du match mènent 3 buts à 0 face aux Américaines championnes du monde alors que Marie-Antoinette Katoto vient d'être servie dans la surface de réparation mais elle a été contrée, servie par Gaëtan Tinet. Marie-Antoinette Katoto, la joueuse parisienne entrée en deuxième période à la 68e minute et qui a inscrit le troisième but des Bleus alors que c'est sa coéquipière du Paris Saint-Germain, Cathy Diatou Diani, qui avait inscrit un doublé auparavant à la 9e minute et à la 57e minute, un doublé de Diani, ce but de Katoto qui avait été sévèrement recadré par Corignac, la sélectionneur des Bleus en début de semaine et qui là a démontré pour son entrée en jeu qu'elle était peut-être au niveau de cette équipe de France, la joueuse de 20 ans qui a aussi la meilleure buteuse du championnat de France mais qui pour l'instant n'avait toujours pas convaincu Corignac avec les Bleus. Pour l'instant les Bleus, justement les Françaises mènent 3 buts à 0 face à des Américaines qui ont bien du mal à se créer des occasions ici au stade Océane du Havre. C'est bien sûr de bon augure pour cette équipe de France lors pour ce premier match de préparation de 2019 pour le mondial que l'équipe de que la France va recevoir l'été prochain. 3 buts à 0 pour une 8e victoire consécutive qui se dessine ici au Havre ce soir pour la plus grande joie des spectateurs et puis pour nous réchauffer un peu aussi hein.
Eh ben, très bien, merci Eric, on vous retrouve dans quelques instants pour la fin de cette rencontre entre la France et les États-Unis avec pourquoi pas une évolution de ce score de 3-0. Mais d'abord on va donc parler de foot africain avec Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Et le foot africain, eh bien ce sont les coupes africaines de clubs, week-end très chargé avec d'abord la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions et un carton ce samedi, il est signé par l'ASV Club de Kinshasa.
Les Dauphins Noirs avaient visiblement à cœur de se remettre en selle après leur défaite initiale face à l'Al Ahly du Caire. Mission accomplie et bien accomplie par les joueurs de Florent Ibenge. Succès 5 buts à 0 sur les Tanzaniens de Simba. Au passage, Makusu Mundele s'offre un doublé pour permettre aux Quinois d'occuper la deuxième place du groupe D à une longueur de l'Al Ahly. Un bon résultat, forcément, mais Florent Ibenge ne veut pas s'enflammer. L'entraîneur de l'AS Vita, joint par vos soins, Cédric, est surtout satisfait de voir que son équipe a relever la tête après la défaite contre les Kérotes.
Déjà, le premier match, on jouait à l'Ali, la meilleure équipe d'Afrique, chez elle. Et puis, on a été diminué très tôt. Ce jour-là, cette fois-ci, on a pu déployer notre jeu et puis bien lire aussi la tactique de l'adversaire qui nous a posé quelques problèmes avec sa façon de se tenir sur le terrain. On a eu quelques petits moments de doute. Et on a su rectifier et continuer à aller de l'avant. Mais aujourd'hui, en gagnant 5-0, ça ne doit pas nous faire croire qu'on est les meilleurs du monde. Donc il faut vraiment savoir raison garder et penser juste au prochain match et engranger des points.
Florent Ibenge, l'entraîneur de l'ASV Club de Kinshasa, au classement de ce groupe D. Al Ahly en tête, 4 points devant l'AS Vita Club et Simba, 3 unités. Saoura est dernier avec 1 point.
Alors, victoire également un peu plus accrochée pour la SEC Abidjan.
Les Mimos avaient un objectif, oublier la large défaite 5-2 encaissée face au Wydad lors de leur première sortie. C'est chose faite avec une courte mais précieuse victoire 1-0 sur les Nigérians de Lobby Stars. Hervé Diomandé, l'attaquant des Mimos, inscrit le seul but du match et permet aux Ivoiriens de revenir à égalité de points avec les autres équipes de ce groupe A. Amani Yao, l'entraîneur des Mimos, content de voir que son équipe a su se relever.
Après la déculottée de Rabat, il fallait relever la tête. Donc, dans l'ensemble, le monde première mi-temps, où on mène 1-0, après deuxième mi-temps, où on fait preuve de pragmatisme. Donc, dans l'ensemble, ça a été un match bien maîtrisé. Donc, on a fait un match sérieux. devant un adversaire de qualité, une bonne première mi-temps. En deuxième, on a reculé pour essayer de la contrer, faire preuve de réalisme parce qu'on avait un avantage surtout. On était venu pour prendre les 3 points, comme j'ai dit aux joueurs, quelle qu'en soit la manière, pour essayer de remonter au classement parce qu'on a pour objectif de sortir de cette phase des poules. Le bloc équipe, voilà, il faut toujours travailler pour essayer d'élever notre niveau parce que la Coupe d'Afrique est dure, elle n'a rien à voir avec le championnat de Côte d'Ivoire. On a une double confrontation contre Mamelodi, je crois. On ira là-bas avant de les recevoir là, dans 2 semaines. Donc, l'essentiel dans l'ensemble, c'est de prendre le maximum de points pour pouvoir sortir des poules.
Du côté de Lobby Stars, pas de défaitisme de la part de Yaya Koné, l'attaquant ivoirien. Le natif de Dodunioa, dans le département de Gagnoa, a perdu pour son retour en pays, mais sans regret.
Ça a été un bon match, ça a été un match difficile pour nous. On a croisé une bonne équipe d'Assé qui était bien en place. Ben, on a donné le meilleur de nous. Ben, je pense qu'ils ont été supérieurs à nous pour tous les moyens. C'est pourquoi on a perdu le match.
Qu'est-ce qui a manqué d'après vous aujourd'hui pour prendre le meilleur sur l'Assé?
Ça a été difficile pour nous parce que dès le début, on n'a pas été présents dans le duel. Ils ont été au-dessus de nous sur tous les plans. Ben, on a eu quelques occasions, mais on n'a pas pu concrétiser. Je pense que chez nous, on va se rattraper et puis on les attend au Nigeria. On a une bonne équipe aussi. On travaille dur pour ça. On a de bons joueurs. Ben, je pense que le match de tous sera un bon match. Je pense qu'on va prendre le 16 là, c'est qu'à la maison.
Yaya Koné, l'attaquant de Lobby Stars, au micro d'Emmanuel Kofi.
Rien de perdu pour Lobby Stars, d'autant que dans ce groupe A, tout est ouvert.
Les 4 équipes comptent 3 points. Le Wydad en tête à la différence de but devant les Mamelodi Sundowns, des Sud-Africains qui se sont imposés tout à l'heure sur le Wydad Casablanca. Dans ce duel entre les champions d'Afrique 2016 et 2017, les Mamelodi l'emportent 2-1 grâce à un doublé de Temba Zouane notamment. Enfin, dernier résultat de la soirée, Mazembe s'incline lourdement 3-0 sur le terrain des Algériens de Constantine. Les Corbeaux, 3e de leur groupe C, à 3 longueurs de leur bourreau du soir, club africain, et 2e avec 3 points, et Ismaili, les Égyptiens, dernier avec 0.
Alors voilà pour la Ligue des Champions. La petite sœur, elle, n'est jamais très loin. La Coupe de la Confédération disputait son tour de cadrage. Retour, 8 rencontres étaient prévues ce samedi. Finalement, seules 7 ont été jouées et le verdict est tombé puisque Salitas tient son exploit.
Le club de Ouagadougou devient le premier de l'histoire du Burkina Faso à se qualifier pour la phase de groupe, battu 1-0 par les Libyens d'Al Nasser. Les joueurs de l'Hadji Koulibaly ont plié l'affaire en moins d'une heure. À la 48e, Sawadogo a mis Salitas à l'abri, 3-0. Le but d'Al Nasser a entretenu le suspense jusqu'au coup de sifflet final, mais c'est bien Salitas qui deviendra le premier représentant burkinabé en phase de groupe d'une coupe de la Confédération. Youssouf Barrow, le capitaine de Salitas, a joué sur la corde sensible pour motiver ses coéquipiers après la défaite du match aller.
Comme je l'avais dit à mes coéquipiers lors du match au Caire, je leur ai dit qu'on n'a pris seulement qu'un but, on a joué, mais on a pris un but sur une erreur défensive, que cette équipe est prenable. Quand on va arriver à Ouaga, ça nous maintenant de corriger les erreurs, c'est bien se préparer pour le match retour, comme c'est à Ouaga devant le public burkinabé. Ça nous maintenant de faire l'effort de gagner la qualif. Et c'est fait. Une équipe burkinabé passe dans les phases de poule. Et nous sommes très heureux ce soir d'avoir se qualifié ce soir. Et c'est une grande joie pour nous. D'abord parce que, comme on le dit, nous sommes rentrés dans l'histoire. Et on remercie tout le monde pour ça.
Du côté d'Al Nasser, forcément, Mohamed Temri, l'entraîneur adjoint, regrettait les 2 buts encaissés coup sur coup à la demi-heure de jeu.
On est venu dans l'objectif de la qualification. Mais on a raté 45 minutes. Et en plus, on a encaissé 2 buts. 2 buts dans 1 minute. Ça, c'est qui a bouleversé et a touché, surtout psychologiquement, les joueurs. Dans le second mi-temps, on a encaissé un but à 3 minutes de jeu. 48 minutes, on a encaissé ce troisième but, celui qui on n'a plus à perdre. Donc, les joueurs essayent de progresser, de dominer. On a créé beaucoup d'occasions, mais malheureusement, l'efficacité, elle était pas bien aujourd'hui. On a juste marqué un seul but.
Mohamed Temri, l'entraîneur adjoint d'Al Nasser, au micro de Gabriel Barrois.
Alors, exploit donc pour les Burkinabés de Salitas. En revanche, Antoine, le stade malien s'arrête là.
Les Bamakois, dominés par le Petro de Luanda, 2-1. Réaction trop tardive des joueurs de Noum Diané, qui étaient menés 1-0 dès la 36e, puis 2-0 à la 88e. La réduction de l'écart à la 93e n'aura donc pas suffi pour des Maliens qui avaient concédé le nul 1-1 à domicile au match aller et qui n'arrivent pas à rejoindre cette phase de groupe de Coupe de la Confédération depuis 2015. Noum Diané, l'entraîneur du stade malien, reconnaissait que son équipe était tout simplement passée à côté face à une équipe du Petro plus sérieuse.
Là, je ne dirais pas que le Petro était meilleur que nous, mais je pense qu'ils ont été beaucoup plus efficaces. Voilà, ils marquent sur balle arrêtée. Après, ils ont eu des jambes qui marquent. Voilà, ça rend les choses un peu compliquées. Voilà, on a tombé aussi sur une bonne équipe. Voilà, ils méritent leur qualification. On a été obligé de changer en deuxième mi-temps. On avait mis un plan de jeu en première mi-temps et où on prend un but. Il fallait coûte que coûte égaliser. Et c'est ça nous a poussé à prendre des risques. Voilà, sur le plan offensif, il fallait le faire.
Bon, le deuxième but, directement, était un coup dur.
Très dur, hein, parce que vraiment, les joueurs n'étaient pas concentrés, parce que tu ne peux pas prendre un but comme ça.
Noum Diané, l'entraîneur du Stade Malien, au micro de Jordan Simba.
Antoine, on le disait, il y a eu 7 rencontres dans ce tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, et ça a été très compliqué pour le Zamalek.
Une qualification longue à se dessiner pour des Égyptiens qui font pourtant partie des favoris de la compétition. Contraints au 0-0 à l'aller par les Marocains de Tanger, les Kérotes ont fini par l'emporter finalement, 3 buts à 1 chez eux, mais il a fallu attendre la 55e minute et le 2-1 signé Omar El Saïd pour prendre enfin un avantage décisif. Les autres résultats, ça passe pour la Lila Lomdourman, battu certes 1-0 sur la pelouse des Rwandais de Mukura Victory Sports, mais qui s'était largement imposé 3-0 à l'aller. Qualification également des Zambiens de Zesco United après leur succès 2-1 sur le terrain des Kaiser Chiefs de Soweto. Et les Marocains d'Agadir, ça passe aussi sans problème face aux Éthiopiens de Jima Abba Jifar. 4-0 ce soir, 5-0 sur l'ensemble des deux matchs. A noter que la rencontre Hussein-Dé Al-Ahli Benghazi a été décalée à demain, dimanche, une grève générale ayant empêché les Libyens de rejoindre la Tunisie, pays où ils disputent leur rencontre à domicile. La situation sécuritaire en Libye ne permettant pas d'y organiser des matchs.
Eh bien, on termine, Antoine, par la déroute des Sénégalais du Djaraf sur la pelouse de la Renaissance de Berkane.
Vainqueur 2-0 du match aller, les Dakarois savaient que ce serait compliqué, mais ils ne s'attendaient pas forcément à ça. Être mené 3-0 à la mi-temps, score final 5-1, avec notamment un doublé du Togolais Kodjo là-bas. Gros regret pour le Djaraf qui échoue pour la 5e fois à se qualifier pour la phase de groupe de cette Coupe de la Confédération.
Et la petite polémique de cette journée, Antoine, eh bien, elle vient justement de Berkane. Avant le match de ce soir, le Djaraf s'est plaint de l'accueil que lui a réservé son adversaire à son arrivée au Maroc.
Le bus affrété par Renaissance à destination des Dakarois était en effet hors d'âge. L'image a fait le tour des réseaux sociaux et rappelé des souvenirs négatifs à d'autres clubs sénégalais, Babacar Fall.
Aussitôt arrivé au Maroc, le Djaraf a tout de suite reçu un accueil particulier. Léonard Diagne, le secrétaire général du Djaraf.
À l'accueil, nous n'avons vu personne. Nous n'avons pas été accueillis en tous les cas par l'équipe adverse. Et nous déplorons tout de suite le bus qui a été mis à notre disposition, qui est un bus d'une époque coloniale.
La RS Berkane s'était elle aussi plainte de ses conditions de séjour à Dakar. Le milieu de terrain, Hamza Regragui.
Nous, les Sénégalais, ils n'ont pas nous invités bien aujourd'hui.
Le Djaraf savait alors à quoi s'attendre en terre marocaine.
Nous étions déjà avertis parce que, comme on l'a dit à Dakar, déjà, on savait ce qu'ils avaient réservé à Génération Foot. Toutes ces informations avaient été partagées entre nous et Génération Foot. Donc nous étions préparés en conséquence. Nous savions effectivement qu'ils ne nous feront pas de cadeau.
Avant le Djaraf donc, d'autres clubs sénégalais ont joué contre la RS Berkane et ont reçu le même traitement. C'est le cas pour Mbour Petite Côte, le directeur général du club, Ibrahima Konaté.
Si les Marocains reçoivent dans un premier temps, sachant qu'ils vont devoir se rendre au pays au retour, ils seront obligés de vous mettre dans des conditions acceptables, comme minimales acceptables. Mais si c'est le cas contraire, ils ont déjà joué chez vous et qu'ils vous attendent, là, ils vous mettent évidemment dans les conditions réglementaires exigibles par la CAF. Mais il ne faut pas s'attendre aussi qu'ils appliquent la teranga sénégalaise. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour vous déstabiliser et vous mettre dans des conditions de jeu difficiles.
Génération Foot, l'ancien club de Sadio Mané, ne comprend pas ce qu'il appelle une impunité en faveur des équipes marocaines et pointe la CAF. Le directeur de la communication de Génération Foot, Talafal.
C'est comme si on a l'impression qu'il y a deux CAF. Il y a une CAF maghrébine et une CAF subsaharienne. À chaque fois, ça tombe sur l'équipe de Berkane. Et quand j'apprends que le président de la commission des finances de la CAF, c'est le président de Berkane, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a jamais eu de sanctions. Je me pose des questions. Est-ce que la CAF fait la sourde oreille, ne prend pas de sanctions, ne cherche pas à savoir ce qui se passe réellement, alors qu'on nous a annoncé depuis l'élection d'Ahmad Ahmad que c'était une élection avec des ruptures.
Babacar Fall, Dakar, RFI.
Voilà pour cette polémique donc entre les clubs sénégalais et la renaissance de Berkane. Antoine, le week-end des Coupes africaines n'est pas terminé. Tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, il s'achève demain dimanche. Il reste 8 places à prendre et pourquoi pas l'une d'elles pour les Congolais de Lotto Odoyo.
Oui, vainqueur 3-0 du match aller, les joueurs d'Alou Badra sont en déplacement en Ouganda pour affronter Kampala City. Un exploit pour une équipe qui a connu sa première Ligue des Champions la saison passée et qui cette année espère bien finir figuré en Coupe de la Confédération. Alou Badra, l'entraîneur des Congolais, remet les compteurs à zéro pour ce match retour.
Je pense qu'il ne faut pas tenir compte du résultat du match aller. C'est un acquis qu'on a eu en première mi-temps. Moi, je considère qu'on a joué une mi-temps avant nous. Il nous reste une deuxième mi-temps. Quand vous boxez quelqu'un, il faut s'attendre aux répliques. Donc, nous sommes dans cette optique. Au niveau de la compétition africaine, c'est notre deuxième participation. Donc, je pense que nous allons quand même... Je venais ici à Kampala pour essayer de pour nous qualifier. La qualification, on doit la chercher ici. Et à Wando, comme on a fait déjà une partie du chemin, on a mis un pas. Il nous reste un deuxième pas.
Ah ouais. Alou Badra, l'entraîneur de la Lesotho d'Oyo, au micro de Jean-Ruffin Louemba.
Alors à suivre également ce dimanche, deux équipes camerounaises qui chercheront à décrocher leur qualification.
New Stars de Douala d'abord, battu 2-1 par les Kenyans de Gormaya au premier match et qui espèrent remonter ce handicap à domicile. Et puis le Coton Sport de Garoua en déplacement sur le terrain des Ghanéens de la Santé Kotoko. Le premier match s'était soldé par un 3-2 en faveur des Ghanéens justement. Et puis en Côte d'Ivoire, le San Pedro FC en lice pour un exploit. Les Ivoiriens sévèrement battus 3-0 par les Zambiens de Nkana au match aller. Autant dire que la mission sera très 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 compliquée. Tariq Jani, l'entraîneur de San Pedro.
On savait dès le début du tirage au sort qu'on va jouer contre une grande équipe zambienne. C'est la plus ancienne, l'équipe la plus titrée en Zambie. Mais on est parti là-bas avec la détermination. Le voyage, c'était un peu fatigant. On est parti sur deux groupes. Il y a eu des problèmes. Je ne cherche pas des excuses. J'ai parlé avec mes joueurs. On doit garder la confiance et l'espoir parce que l'impossible n'est pas ivoirien. On peut parler de remontada. C'est facile de parler, mais sur terrain, ça sera difficile. Dans les 90 minutes, il y a beaucoup de scénarios qui peuvent arriver. On s'est préparé pour tous les scénarios. Surtout sur le plan mental. Aujourd'hui, on a des joueurs qui ont l'expérience, qui ont déjà participé dans des compétitions africaines. On a parlé avec tout le groupe. Nos joueurs cadres, ils nous ont aidés à encadrer les jeunes. On peut marquer 3 buts, c'est pas une mission impossible. Tant qu'on joue le foot, il n'y a pas d'impossible.
Tariq Jani, l'entraîneur de San Pedro FC au micro d'Emmanuel Kofi. Les autres rencontres de ce dimanche en Coupe de la Confédération. Après leur victoire 2-1 à l'extérieur au premier match, les Nigérians d'Enugu Rangers accueillent le FC Bantu, club du Lesotho. Les Tunisiens du club sportif Sfaxien affrontent eux les Ougandais de Vipers. Suspense intégral après le 0-0 de l'aller. Enfin, le Raja Casablanca, le tenant du titre, en toute simplicité. Le Raja accueille les Namibiens d'African Stars après un nul, un partout, un peu inattendu à l'aller.
Eh bien, merci beaucoup Antoine Grenier pour ce point complet. On vous retrouve demain pour eh bien tous les résultats de dimanche ainsi que les réactions dans Mondial Sport. On va parler de foot européen, mais avant ça, on va faire un petit détour par Le Havre pour retrouver Éric Chorin, notre envoyé spécial sur le match amical entre l'équipe de France féminine et les États-Unis. Éric, finalement, la France donc s'est imposée 3-1, même si la fin de match a été un petit peu plus délicate.
Oui, une petite fausse note en fin de match face aux Américaines comme face aux Brésiliennes pour terminer l'année 2018. Mais à l'arrivée quand même, 2 victoires, 3-1 face aux Brésiliennes il y a 2 mois, face aux Américaines ce soir, après avoir mené à chaque fois 3-0. C'est ce qu'on retient quand même, c'est cette maîtrise de cette équipe de France ce soir avec une défense quasiment inchangée, même si Gridge Mbok-Bati, la Lyonnaise qui a l'habitude de tenir la défense centrale avec Wendy Andy Renard n'était pas là ce soir, blessé. Aïssatou Tounkara, pardon, la joueuse de l'Atlético Madrid qui avait déjà joué aux côtés des deux joueuses dans une défense à 3 joueuses en défense centrale face aux Brésiliennes, et ben a tenu son rang ce soir face à Wendy Renard. On n'a pas vu de baisse de régime dans cette défense qui est l'un des points forts des Bleus, puisque sur les 8 dernières victoires françaises en 8 matchs, 6 l'ont été emportées sans encaisser aucun but avec Tounkara ce soir aux côtés de Renard. Mais bien sûr, la baisse belle satisfaction ce soir, c'est les buts des tricolores. Kadi Diatou Diani a inscrit un doublé, un but en première période à la 9e minute, un autre à la 57e. Et puis Marie-Antoinette Katoto, qui avait pourtant été sérieusement piquée par Corinne Diacre en début de rassemblement, a marqué après son entrée en jeu ce soir à la 68e minute. Elle a redressé un ballon dans un angle totalement fermé. Katoto, elle avait été piquée tout simplement. Corinne Diacre avait dit qu'après son premier entraînement avec La Fontaine, elle n'avait aucune chance d'être titulaire pour la première fois ce soir. Elle n'avait pas montré quoi que ce soit, elle n'avait peut-être pas le niveau, alors que c'est la meilleure buteuse du championnat de France avec 17 buts en 15 matchs. Katoto qui a donc marqué ce but qui peut lui donner la confiance et lui permettre peut-être de renforcer une ligne d'attaque déjà assez riche pour les joueuses de Corinne Diacre. Cédric, juste pour en finir, 22 000 spectateurs ce soir, c'était 10 000 de plus qu'à Nice il y a deux mois face aux Brésiliennes. C'est l'une des meilleures audiences des joueuses de l'équipe de France de football et c'est de bon augure bien évidemment à deux mois de ce mondial avec cette belle victoire face aux championnes du monde en titre, 3 buts à 1.
Voilà, une belle soirée pour vous Eric Chorin, en attendant d'autres pour la Coupe du Monde donc l'été prochain. Merci beaucoup Eric Chorin. Alors le foot aussi donc en Europe avec notre traditionnel point sur les grands championnats. On commence par l'Angleterre, 23e journée de Premier League ce week-end. On retrouve tout de suite notre correspondant à Londres, Tom Williams. Bonsoir Tom.
Bonsoir Cédric, ouais c'est ça.
Alors on va parler notamment de Liverpool, le leader qui a remis la pression sur Manchester City avec une victoire 4 buts à 3. C'était face à Crystal Palace dans un match palpitant à Anfield.
Oui, Crystal Palace a gagné contre City en décembre et les supporters de Liverpool ont dû craindre le pire quand Andros Townsend a donné l'avantage à l'équipe de Roy Hodgson, ancien entraîneur de Liverpool, dans la 34e minute. Liverpool a égalisé juste avant la mi-temps avec un but de Mo Salah, puis Roberto Firmino a marqué pour mettre Liverpool en avant. Palace n'a pas baissé les bras, James Tompkins marquant de la tête le but du 2-2. Mais les visiteurs ont craqué en fin de match. Une grosse erreur du gardien Julian Speroni a donné à Salah un deuxième but, un 16e en Premier League cette saison pour l'Égyptien. James Milner a été expulsé pour Liverpool après deux fautes sur Wilfried Zaha, l'ailier ivoirien de Palace. Mais le Sénégalais Sadio Mané a ajouté un quatrième but dans le temps additionnel pour mettre fin aux espoirs de Palace, qui a marqué un troisième but en fin de match par Max Meyer. Liverpool a de nouveau un avantage de 7 points sur City, le champion en titre, qui se déplace à Huddersfield, la lanterne rouge, dimanche.
Voilà pour Liverpool, donc le leader. Mais le choc, Tom, de cette 23e journée, c'était Arsenal-Chelsea avec une victoire importante des Gunners.
Oui, Arsenal avait besoin de victoire après avoir été battu 1-0 par West Ham. Et il a répondu présent avec une victoire par 2-0 contre Chelsea suite à une performance pleine de détermination et de discipline. C'est Alexandre Lacazette qui a donné l'avantage aux Gunners dès la 14e minute à l'Emirates Stadium avec un joli but, contrôle orienté suite à un centre d'Hector Bellerin suivi par une frappe limpide. Laurent Koscielny a marqué un deuxième but de l'épaule en premier mi-temps. Et Arsenal a résisté de façon assez tranquille en deuxième mi-temps. Chelsea ne cadrant qu'une de ses 13 frappes au but. Seul souci pour Arsenal, le départ sur civière de Bellerin, son latéral droit, en fin de match avec une blessure au genou.
Alors c'est un succès important pour Arsenal, on l'a compris. La lutte pour la Ligue des Champions d'ailleurs qui est toujours aussi intense.
Oui, Arsenal reste cinquième, mais les hommes d'Unai Emery sont maintenant à 3 points du Chelsea, qui occupe la 4e et dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Tottenham, 3e, peut se donner un matelas de 4 points sur Chelsea s'il gagne à Fulham dimanche.
Alors déception hein, donc pour Chelsea. Cette défaite, Tom, elle révèle aussi qu'il y a toujours des problèmes en attaque pour cette équipe de Maurizio Sarri.
Oui, Maurizio Sarri espérait boucler l'arrivée de Gonzalo Higuaín en prêt de l'AC Milan pour ce match, mais ça n'a pas été possible. Et Chelsea a donc de nouveau débuté avec Eden Hazard en faux neuf. Sans un point de fixation, les Blues ont vraiment eu du mal à créer des occasions. Et ça n'a pas changé avec l'arrivée d'Olivier Giroud comme remplaçant pour les 20 dernières minutes. Chelsea n'a marqué que 4 buts lors de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, vivement Higuaín.
Enfin, Tom, un mot sur Manchester United qui n'en finit plus de gagner. 7e succès d'affilée, toute compétition confondue depuis que Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur intérimaire, a pris les commandes de l'équipe.
Oui, United continue à être méconnaissable par rapport à l'équipe très triste qu'on avait l'habitude de voir pendant l'ère José Mourinho. Sa victime samedi était Brighton, battu 2-1 à Old Trafford. Paul Pogba a marqué sur penalty son 5e but en 5 matchs. Et Marcus Rashford a mis un bijou en pleine lucarne pour couronner son 50e match pour les Red Devils avec un 9e but de la saison. Seul bémol, la réduction du score par Pascal Gross en deuxième mi-temps. Voici United à 3 points des places Ligue des Champions, à égalité de points avec Arsenal, 5e, ayant été à 11 points du top 4 quand Mourinho est parti.
Eh bien, merci Tom Williams. Ça y est, voilà, vous savez tout sur cette 23e journée de Première Ligue, en tout cas ce samedi. Bonne soirée Tom et à bientôt dans Mondial Sport.
Bonne soirée, merci Cédric.
On parlait avec Tom Williams à l'instant de Manchester United, les Red Devils qui affronteront, vous le savez, le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce sera dans un peu moins d'un mois. Paris qui a brillé ce samedi en Ligue 1. Bonsoir Hugo Massonnier.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Suite donc de cette 21e journée de Ligue 1 en France avec le PSG qui a affronté Guingamp et qui a remporté le choc des contrastes, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Paris Saint-Germain et ses artistes ont été impitoyable succès, 9-0 face à Guingamp. C'est tout simplement la plus large victoire du PSG dans son jardin, le Parc des Princes. Un stade dans lequel son adversaire était pourtant venu s'imposer en Coupe de la Ligue la semaine passée. Une victoire en trompe-l'œil, on peut le dire maintenant. Paris est bien tout en haut de la Ligue 1, 13 points d'avance sur son premier poursuivant, Lille. Guingamp est bien tout en bas à la dernière place. Neymar a ouvert la marque dès la 11e minute ce samedi avec un très bel enchaînement. Allez le voir sur internet, amorti poitrine, petit crochet extérieur, aérien, plat du pied pour terminer le travail. Doublé pour le Brésilien au final, triplé pour l'Uruguayen Cavani, triplé pour le Français Kylian Mbappé, 17 réalisations. Le jeune prodige est en tête du classement des buteur de la Ligue 1 et apparemment, croyez-le ou non, le stage de son équipe au Qatar la semaine passée, un stage autant sportif que marketing, lui a fait du bien.
On est content. On a travaillé pendant le stage à Doha, on est revenu à Paris. Voilà, on a travaillé les automatismes, tout ce qui nous manquait aussi, parce qu'il nous manquait pas mal de choses quand on est revenu de vacances. Et voilà, on a réussi à l'appliquer aujourd'hui, c'est bien. Il faut continuer à enchaîner et continuer à prendre du rythme. Voilà, on sait qu'on a de la qualité, maintenant ça suffit pas. Faut travailler et continuer à faire ce qu'on fait parce que pour l'instant on est dans le vrai.
Kylian Mbappé au micro de nos confrères de Canal+, travailler pour préparer la suite. Et la suite, vous en parliez, c'est bien évidemment et c'est surtout la Ligue des Champions. Le 8e de finale aller à Manchester contre Manchester United le 12 février.
Oui, alors justement, Hugo, grosse frayeur pour ce PSG en prévision de ce choc. La sortie sur blessure de Marco Verratti, c'est le gros point noir de cette rencontre.
Le gros point noir, le choc des contrastes qui a aussi été une après-midi contrastée pour le club parisien. Le petit Italien Marco Verratti touché à la cheville en début de partie, obligé de sortir. Son entraîneur Thomas Tuchel n'a pas caché son inquiétude à l'issue de la rencontre. Toujours au micro de nos confrères de Canal+, Thomas Tuchel qui a un peu perdu son français au passage.
Pas de nouvelles, mais pas de bonnes nouvelles. Je pense que c'est sérieux. Il est sérieusement blessé. Pour nous,
c'est le pire qui
peut nous arriver.
Le pire qui puisse nous arriver. Il faut dire que le milieu de terrain, c'est un secteur dans lequel le PSG est clairement trop juste. Et ce, depuis de nombreux mois. Rabiot est écarté, Marquinhos, Julian Draxler ou encore Dani Alves évoluent à contre-emploi dans ce secteur. Les dirigeants s'activent pour recruter cet hiver, vous le savez, l'Argentin Paredes et le Sénégalais Idrissa Ganagay sont notamment visés.
Il y a beaucoup de travail donc pour la cellule de recrutement du PSG. Hugo, il y avait 3 autres matchs ce samedi dans cette 21e journée de Ligue 1, avec notamment une nouvelle désillusion pour Monaco et Thierry Henry.
On peut même parler de déroute à domicile devant Strasbourg. Défaite 5-1 pour le club de la Principauté, réduit à 10 dès la 7e minute. Un Naldo qui a écopé d'un carton rouge. 5-1. Le Racing Club de Strasbourg, en revanche, continue d'écrire sa belle histoire en 2019. 5e du classement de Ligue 1. Victoire de Toulouse également, on peut signaler à Nîmes 1-0. Match nul de Nice à Reims 1 partout. 5 matchs à suivre pour terminer cette 5e troisième journée de Ligue 1 demain, dont le derby tant attendu Saint-Étienne-Lyon. Saint-Étienne 4e, Lyon 3e, c'est plutôt l'inverse. Lyon 4e, Saint-Étienne 3e.
Eh bien merci Hugo Moissonnier, on en reparlera évidemment demain. Merci, voilà, c'est fini pour Mondial Sport. N'oubliez pas d'aller réagir sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée à vous sur RFI.